À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Marche en ma présence », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Marche en ma présence. Le peintre qui peint un tableau, qui trace un portrait ou dessine un visage, ne peut faire autrement que de fixer sur la toile des êtres qui, en réalité, sont en mouvement, en devenir, en train de marcher, de cheminer. Or, une personne spirituelle accompagnée par le Seigneur ne saurait demeurer figée. Elle est vraiment entraînée dans un mouvement de don et d'accueil. Pour saisir ce mouvement en lui-même, le peintre devrait se faire cinéaste. La question qui se pose ici, c'est comment conjuguer dans sa vie le passé, le présent et l'avenir. S'interroger comment on conjugue sa vie au plus que parfait, au futur antérieur, au passé simple, au présent. Comment tisser les fils du passé et de l'avenir. Comment se comporter face à la réalité du temps. Et en particulier, face au passé. Je vous présente quelques séquences qu'un cinéaste pourrait prendre là-dessus. Évidemment, il faudrait faire un bon montage. Je vous laisse intérieurement faire ce montage. Il y a une façon hygiénique, spirituellement et psychologiquement, de se comporter face à la réalité. C'est une façon qui m'a été inspirée par un psychiatre qui est très proche de l'expérience spirituelle, qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl disait qu'il y a trois façons gagnantes, fructueuses, de se comporter face à la réalité. Tout d'abord, face à ce qui est beau, ce qui est bon dans la réalité, il faut savoir accueillir, apprécier et goûter ces choses. Ne pas se sentir mal à l'aise d'être bien face à des choses qui sont bonnes. Il appelle cet aspect de l'hygiène face à la réalité, il appelle ça les valeurs de contemplation. Goûter ce que la vie nous donne de beau et de bon. Le problème vient... Et c'est le deuxième aspect de l'hygiène face à la réalité. Le problème vient quand les choses sont pas bonnes ou pas belles. Les choses, la vie, à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, Viktor Frankl nous dit, face aux choses qui ne sont pas belles, pas bonnes, mais que je puis transformer et améliorer, il s'agit que je change... que je transforme la réalité, que je rende bonnes et meilleures les choses, de telle sorte que je puis alors les contempler. Prenez l'exemple dans notre pays, à cause du froid, on est poussé à toutes sortes de transformations, à tricoter des chandails, à bâtir des maisons chaudes, de telle sorte que ça devient très confortable de vivre l'hiver au Canada. Mais il arrive que, alors ce sont des valeurs de création, ces deuxièmes valeurs. Valeurs de contemplation, valeurs de création, où je puis transformer la réalité. La troisième situation, c'est lorsque je me trouve devant des choses qui ne sont pas bonnes, que je ne puis pas changer. Par exemple, une maladie qui m'arrive, incurable, un échec qui est là que je ne peux pas éviter, ou des péchés ou des actes manqués dans ma vie et qui ne peuvent pas être changés. Frankel nous dit alors, et il s'agit de ce qu'il appelle des valeurs d'attitude, il s'agit alors de me changer face à ces choses, face aux choses qui ne sont pas bonnes et que je ne puis pas changer, je puis encore me changer moi-même. Par exemple, face à mon tempérament, si j'ai un tempérament colérique ou un tempérament plutôt paresseux, face à une épreuve ou une maladie inévitable, face à la mort, je puis ou bien me déprimer ou bien me dépasser. Viktor Frankl a lui-même découvert sa liberté en plein camp de concentration. Il a mis en pratique ses valeurs d'attitude. Face à notre passé, il s'agit donc premièrement, d'accueillir notre passé positif et négatif, pour nous libérer profondément. L'accueil de son histoire, vous le savez, a une fonction libératrice très grande. Du seul fait de prendre conscience et de nommer son vécu. C'est Goethe qui disait ça, celui qui n'assume pas son passé est condamné à toujours le répéter. Prenez des exemples très concrets. Quelqu'un qui se met les pieds dans les plats, s'il ne prend pas conscience qu'il s'est mis les pieds dans les plats, et la prochaine occasion, il va se remettre les mêmes pieds dans les mêmes plats. S'il prend conscience, la prochaine fois, il ne se mettra pas les mêmes pieds dans les mêmes plats. Peut-être d'autres pieds dans d'autres plats, mais pas les mêmes. L'expérience, c'est un vécu conscientisé. L'expérience, c'est un vécu conscientisé. Si on ne prend pas conscience de son vécu, le vécu se perd dans le passé, tout simplement. Et il ne sert pas à notre croissance. Il importe donc de savoir identifier et nommer les choses pour ne pas qu'elles jouent à notre insu, pour collaborer avec la vie et non pas en être la victime. Les psychologues, d'ailleurs, font leur argent avec ça. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de trouver le moyen pour les personnes d'assumer leur vécu, de nommer ce qui joue à l'intérieur de ces personnes à leur insu. Et ça fait beaucoup de l'espace pour la liberté. Il est désastreux d'être amnésique spirituellement, de refuser ou de fuir son passé. Comme les choses qui ne sont pas digérées nous restent, comme on dit, sur le cœur. Ainsi, le refus d'aborder son passé conduit à des attitudes de résignation, de stagnation. Ces attitudes de refoulement, de ressentiment, de répression forment des tensions intérieures terribles. Ce qui n'est pas accepté dans mon passé divise mon être intérieur. Ça devient une sorte de chaîne qui me retient, de boulet que je traîne, une sorte d'écran qui m'empêche d'être transparent. Il faut donc lire son histoire et lire la grande histoire. Ça fait beaucoup de bien pour relativiser le présent. L'enfant prodigue, vous le savez, revient à son passé. La foi, essentiellement, c'est une sorte de retour sur le passé. Jean Guillet disait « La lecture spirituelle de l'histoire personnelle et collective a été pour Israël une sorte d'exercice spirituel couramment mis en pratique pour éclairer le présent difficile. Et tout se passe comme si l'homme sans mémoire ne pouvait pas être un homme fidèle, et donc un homme de foi. l'anamnèse, la mémoire, dans la Bible, représente une sorte de mode de fonctionnement de la foi. Schéma Israël, souviens-toi, Israël. Interroge les temps anciens. Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que le Seigneur est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Sache donc aujourd'hui et médite dans ton cœur, le Seigneur est Dieu. Tu répéteras cela à tes fils. Tous les grands spirituels, toutes les personnes spirituelles sont des personnes de mémoire, dans un sens. Capacité de se rendre présent à leur vécu et finesse de relire son vécu. Vous connaissez les confessions de saint Augustin, le récit du pèlerin de saint Ignace, la vie écrite par elle-même de Thérèse d'Avila, l'Apologia pro vita sua de John Henry Newman. Tout d'abord, assumer son passé. Évidemment, c'est facile quand le passé est bon. Assumer son passé pour rendre gloire à Dieu, pour entrer dans l'action de grâce. Le problème, c'est lorsque notre passé est difficile. Face au passé négatif, aux péchés, aux blessures, à ce qu'on a appelé les graffitis intérieurs, qu'il faut remplacer par des icônes, il est nécessaire d'adapter une hygiène psychologique et spirituelle pour ne pas se blesser, se maltraiter davantage. Il ne faut pas fouiller dans son passé sans précaution. Et ces précautions sont doubles. Il faut d'abord être bon et être patient pour assumer son passé. Être bon, c'est-à-dire aller dans son passé avec amour. Jean Vanier, dans un de ses articles, il dit qu'on porte en nous un enfant qui demande à naître, qui est pauvre, qui est petit, et qu'il faut prendre dans nos bras, le serrer bien fort et lui dire qu'on l'aime. S'aimer non pas parce qu'on est bon, beau, mais pour le devenir, appeler notre être à exister et à déployer toutes les richesses de son existence. Être bon, aller au oui profond à l'amour de Dieu pour soi, se laisser aimer jusqu'à s'aimer soi-même. La deuxième précaution, c'est d'être patient avec soi, y aller lentement. Prendre le temps. Les blessures ne se cicatrisent pas du jour au lendemain. Il ne faut pas s'amuser à jouer dans ces blessures pour les débrider les plaies. Je me souviendrai toujours d'un exemple d'un avocat qui travaillait dans une prison, qui allait voir un prisonnier. Et à un moment donné, le prisonnier l'a fait venir et lui montrait sur le toit d'un bâtiment de la prison. Il y avait une mouette qui était là dans un coin sur le toit, qui ne bougeait pas. Et le prisonnier expliquait à l'avocat que les animaux, quand ils sont blessés, les animaux s'arrêtent pour laisser les tissus se refaire. Ils ne bougent pas jusqu'à temps que les tissus ne se soient pas guéris. Deux semaines après cette visite, l'avocat revoit son prisonnier et s'informe de la mouette sur le toit, et le prisonnier lui dit « La mouette est partie il y a 3 jours ». Et il ajoute cette phrase très significative « La mouette avait fait son temps ». Tout comme le prisonnier était en train de faire son temps à la prison. La libération du passé prend du temps. Elle peut se faire à plusieurs niveaux, bien sûr, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Il est normal de se sentir coupable quand on est coupable. Il faut craindre les psychologies ou les thérapies qui veulent évacuer toute culpabilité. C'est comme si on enlevait le signal des choses qui vont mal en nous. Il est bon de se sentir coupable quand on est effectivement coupable. Si jamais on est coupable pour rien, ben là, c'est de la maladie, il faut se débarrasser de ça. Il y a des façons désastreuses de se libérer de la culpabilité. Classique. La première, c'est de mettre la responsabilité sur les autres. Vous avez ça au premier livre de la Genèse. Dans les premiers livres de la Genèse, c'est la faute du serpent, c'est la faute de la femme. Vous connaissez l'accusé qui se défendait comme ceci, « Monsieur le juge, étant donné mes parents, mon éducation, mon milieu, étant donné mes gènes, j'ai pas pu faire autrement que de tuer Monsieur un tel. » Le juge a répondu, du même souffle, « Mon cher ami, étant donné mon éducation, mes parents, mes gènes, je ne peux pas faire autrement que de vous condamner. » Ça ne solutionne rien que de mettre la faute sur les autres. C'est classique. Une des premières choses pour se guérir intérieurement d'un passé douloureux, c'est d'assumer la responsabilité de ses actes. Et pour se déculpabiliser, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas les autres. Et je veux plus le faire. Et là, le signe, le sentiment de culpabilité disparaît. C'est la seule façon saine psychologiquement de se déculpabiliser. Ne pas essayer non plus de changer la réalité des choses en se tordant le jugement, pour ainsi dire. Dans le fond, c'était pas mauvais ce que j'ai fait. Là, le danger, c'est qu'on se brise. On se brise le jugement. Il faut être bon et il faut prendre le temps pour changer son passé négatif et le transformer en positif. La deuxième étape, la déculpabilisation, après avoir fait la vérité, s'être reconnu pécheur, consiste à réaffirmer et retrouver la valeur qui a été niée, redire et refaire son oui, son consentement, son attachement à ce qui est vrai, se replacer dans la lumière. Réaffirmer si j'ai blessé quelqu'un, réaffirmer la valeur de l'amour fraternel. Et petit à petit, nos expériences malheureuses vont prendre un sens positif. On va tirer profit de son expérience passée pour s'établir dans une sorte de sagesse. On a dit que la sagesse, c'était la somme de nos erreurs. Mais pas simplement la somme de nos erreurs assumées dans la conscience, éclairée, rétablie. Cet effort de conscientiser et de transformer, et de se transformer face à notre passé difficile, nous humanise beaucoup. Nous devenons capables de comprendre les autres. Que ceux-là soient sévères, disait saint Augustin, ceux-là qui n'ont pas péché ou souffert. Le passé doit nous ouvrir à l'avenir. Les limites, les pauvretés, les péchés sont des brèches par lesquelles Dieu peut nous rejoindre. Et là, nous abordons non pas la façon psychologique qui est très nécessaire, mais la façon spirituelle. Le Seigneur nous rejoint plus sûrement à travers nos blessures qu'à travers nos suffisances et nos satisfactions. Il existe une petite parabole intéressante où on compare notre relation à Dieu comme si nous étions liés par des fils à Dieu, et quand on fait un péché, on coupe le fil, et Dieu refait l'alliance en renouant le fil. On coupe encore le fil, il fait encore un nœud. Et petit à petit, à force de coupures et de nœuds, le fil se rapetisse et on s'approche davantage de Dieu. C'est pas là une invitation à faire des péchés. Mais c'est pour comprendre que c'est à travers nos fautes, nos misères, que Dieu nous rejoint plus facilement. La façon spirituelle de guérir notre passé douloureux, c'est de suivre un peu ce qu'ont suivi les disciples d'Emmaüs, qui étaient déprimés. C'est de se laisser rejoindre par le Dieu des résurrections. Une autre façon de dire ça, c'est d'accueillir dans notre vie douloureuse, dans nos actes manqués, le pardon de Dieu. Il y a un dominicain que j'aime beaucoup, qui m'interroge beaucoup, c'est le père Brugberger. C'est un dominicain qui était l'ami de Madame Pompidou. C'est lui qui a fait le film Le dialogue des Carmélites. Il a écrit plusieurs livres. Dans un de ses livres, le père Brugberger disait ceci, en parlant de la confession, « Quand je vais me confesser, ce n'est pas pour être déculpabilisé, mais pour être pardonné. C'est-à-dire pour me saisir aimé de Dieu dans mes misères et dans mes péchés. Il y a une très grosse différence entre la déculpabilisation et entre le pardon. Dieu nous aime inconditionnellement. Il ne met pas de « si » à son amour. Il ne dit pas « je vais t'aimer si tu es bien, si tu es bon ». C'est l'inverse qui est vrai. Son amour est toujours premier. Il est inconditionnel. Il nous aime pour que nous devenions bons, pour que notre vie s'épanouisse à plein. Je ne sais pas comment vous fonctionnez quand vous vous approchez du sacrement de la réconciliation. Si vous allez là pour être déculpabilisé ou pour être aimé de Dieu, de son amour, de pardon. Le Seigneur ne fait pas avec nous ce qu'un parent ne ferait pas avec son enfant qui a fait un mauvais coup. Un parent ne dira jamais à son enfant « tu es trop petit, tu comprends rien, oublie tout, tu n'as rien fait de mal ». Un vrai parent va éduquer son enfant, va lui le renvoyer à ses responsabilités, dans la mesure où il est capable d'en prendre, bien sûr. Le Seigneur ne nous enlève pas la liberté qu'il nous a donnée et qui est ce par quoi nous sommes le plus proche de lui. Nous allons à la confession, non pas pour être déculpabilisé, mais pour être certain de l'amour de Dieu, pour accueillir le pardon de Dieu. Dans ce contexte, se pose la question de la fidélité. Dieu est fidèle et sa fidélité est inébranlable. Comme dit l'Écriture, si vous êtes infidèle, moi je suis fidèle. Nous pouvons manquer aux appels de Dieu. Nous pouvons nous refuser de répondre ou n'arriver jamais à répondre. Dieu ne lâchera pas de nous appeler. Nous pouvons errer, prendre des chemins de traverse, nous égarer à l'occasion. Dieu n'arrêtera pas de nous chercher. Quand nous considérons notre passé, il y a beaucoup de choses à goûter dans notre passé, les belles choses que le Seigneur nous a donné de vivre. Il ne faut pas oublier ces belles choses-là. Mais même les choses douloureuses, les choses difficiles, les actes manqués de notre vie peuvent être transformés par le pardon de Dieu. Nous sommes aimés pauvres, petits et pécheurs par Dieu. J'évoquais tout à l'heure les réflexions de Jean Vanier qui dit qu'on porte en nous un enfant qui est pauvre, qui est petit, qui a besoin pour naître à la vie, d'être aimé, d'être appelé à vivre. Et Jean Vanier nous invitait à prendre cet enfant-là dans ses bras puis à lui dire qu'on l'aime beaucoup, notre enfant en nous. Que dire de Dieu? Toute la parabole de l'enfant prodigue, c'est le Père qui nous prend dans ses bras, qui nous dit qu'il nous aime, qui n'est pas découragé, qui n'est pas éloigné de nous par nos bêtises. Son amour, c'est ce qui fait la solidité de notre vie. L'amour de Dieu est toujours premier. Il est toujours créateur. Il est toujours inconditionnel. Et de ce fait, il est inébranlable.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.